Bac FM, il est 10h30, on est parti pour votre rendez-vous cinéma de la semaine sur Bac FM. Action, c'est parti Laetitia, générique.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Et je suis avec Letty, avec Marie. Salut les filles.
Salut Théo.
Salut Théo.
Une semaine cinématographique pour vous ou pas?
Il n'y a pas le film d'horreur.
Non, c'est vrai. Mais on n'est pas chanceux hein, cette semaine. Il n'y a pas grand-chose.
Non, mais je crois qu'il y en a quand même un qui m'intéresse. On reviendra dessus plus tard.
Ah, on va revenir dessus.
Tu perçois à part John Wick 4.
C'est vrai que tu n'es toujours pas allé voir.
Ce que je vais
Marie,
voir
tu
cette
m'as,
semaine.
Tu m'as confié que tu avais fait ton marathon personnel.
Tout à fait.
Et il ne manque plus qu'à aller au cinéma Zarin voir John Wick 4 qui est encore à l'affiche.
Oui.
On va en parler justement dans le box-office. On va partir aussi en voyage avec le film que tu sors de ton grenier en fin d'émission. Comme tous les mercredis, Manuel Housset va nous parler justice et d'un film qui traite d'un aspect de la justice restaurative. C'est sa recommandation de la semaine, c'est un super film. Et puis les sorties ciné arrivent aussi après Miley Cyrus, mais juste avant, eh bien, on fait le point sur le box-office avec des changements en tête, mais très peu d'ailleurs. Les films français continuent de progresser, comme Mon Crime qui gagne 175 000 entrées et Alibi.com 2 qui dépasse les 4 millions d'entrées grâce aux 145 000 nouvelles places vendues cette semaine. Alors Mon Crime, 3e, Alibi.com 2 est 6e, eh bien c'est le 6e opus justement encore de Scream qui est 4e et qui lui aussi continue de bien tourner, comme l'autre franchise du classement c'est Creed, le 3e volet de la saga des relèves de Rocky est 5e avec 150 000 nouvelles entrées. Et puis dans les nouveautés de la semaine dernière, eh bien il y avait de grandes espérances sur le film, justement de grandes espérances, mais ce n'est pas un carton pour ce drame politique où l'on suit l'ascension dans la sphère politique d'une jeune femme, Madeleine, et de son copain, qui seront rattrapés par un secret, 85 000 curieux, en une semaine pour ce film. Et puis la tête de classement, eh bien c'est Pierre qui la gagne devant John Wick. Pierre, c'est un écrivain qui, un soir de fête trop arrosé, va faire une mauvaise chute. Cet accident, il le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il va se faire la promesse de traverser la France à pied du Mercantour jusqu'au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Ça s'appelle « Sur les chemins noirs » et c'est librement inspiré du roman de Sylvain Tesson. C'était la recommandation la semaine dernière de Manuel Housset qui félicitait le jeu de Jean Dujardin, bande-annonce.
Je peux vous poser une question?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge?
Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon.
Allez, Jacques, un dernier verre!
Oh, c'est malin.
Pierre! Non, non! Pierre! Pierre!
J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation.
Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer.
Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience.
Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs.
Hey,
t'as plus de 1000 bornes, là.
1003.
Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit, avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche.
Les néo-ruraux, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac.
Sur les chemins noirs, c'est le numéro 1 du box-office français cette semaine avec un démarrage à 440 000 entrées et c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin. À côté d'autres films qui sortent aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans quelques instants, juste après Miley Cyrus. Bougez pas, vous êtes sur Bac FM dans Action.
It over. Well, my shoulder and the bone's too big to bury. Your part, you just jump in the car and it down at the body, you're blurry. Don't know when to stop, so you take it too far. I know who you are, and I'm left in the dark till I'm worried. Ooh, it hurts me.
Miley Cyrus sur Bac FM, Jaded, extrait de son nouvel album Endless Summer Vacation, vous êtes dans Action. Bienvenue, on parle des sorties ciné tout de suite.
Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Et voilà, on a les droits.
Et trois nouveaux films, cette semaine à l'affiche de votre ciné Mazarin, avec un blockbuster américain, encore un, Shazam est de retour, après un premier film accueilli moyennement par les spectateurs et par la presse, Billy Baston, il y en a un de la Baston quand même,
en soi,
dans ce film, Billy Batson, l'ado capable de devenir un super héros adulte lorsqu'il prononce le mot, eh bien, Shazam, revient sur vos écrans, investi des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de l'Atlas, un trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, et bien Billy alias Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. C'est des effets spéciaux dans tous les sens et ça joue beaucoup sur le sensationnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles? Je sais, toi, Marie, que peut-être que ça pourrait être, peut-être un petit peu t'intéresser.
Non, pas
moins.
Trop.
Moins que l'univers John Wick.
Ouais,
par exemple.
Que l'univers John Wick. Je suis pas très film de super-héros, à vrai dire.
Ouais, c'est. Ouais. Alors, c'est DC, c'est
ouais,
la compagnie DC,
ouais,
je crois.
C'est du DC Comics, mais ouais, je suis. Je sais pas, et puis Shazam en soi, c'est pas... Le premier m'avait pas transcendé, donc...
Ouais, je l'avais vu le 1, et pareil, j'avais trouvé ça un petit peu... J'avais bien aimé l'univers un peu deadpoolien.
Oui, il y a de ça un petit peu.
De Shazam, mais ça m'avait pas non plus l'éthique, qu'est-ce que t'en penses toi?
Ah, moi non plus, je suis pas très super-héros, moi je me suis arrêté au Batman de Tim Burton. Hein, donc,
ah oui, d'accord, ouais, alors effectivement, ouais, il y a des sens de rattrapage un petit peu, mais...
Ouais, voilà, après j'ai vu quelques Spider-Man, mais j'accroche pas.
Alors, si vous êtes curieux d'aller voir la bande-annonce sur YouTube, vous irez voir, et en vrai c'est... Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça. À un moment donné, il y a un dragon qui rentre dans un immeuble. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu trop sensationnel, un petit peu en faire de trop pour en faire des caisses, en fait, pour être toujours dans le plus, quoi.
Après, pour le coup, Shazam, bon, ça n'a pas les mêmes ambitions qu'un Batman, par exemple.
Non, c'est non, bien sûr.
C'est beaucoup plus tout public, c'est pour la famille. Donc, qu'il y ait des dragons, tu vois, genre, ça me choque pas. C'est pour que ça plaise aussi aux plus jeunes, peut-être. Je sais pas. C'est une supposition, mais je ne saurais pas te dire.
Je suis pas hyper fan. J'ai une deuxième question, les filles. Est-ce que vous pensez que vous avez une bonne conduite?
Qu'est-ce que tu entends par là?
Oui.
Alors, une bonne conduite véhicule, hein. Ah. Pas une bonne conduite de vie, une bonne conduite... Non, je connais vos vies et on va pas parler de cette bonne conduite-là. Non, non, une bonne conduite au volant.
Personnellement, je pense que oui. J'espère.
Bon, moi, je suis dans la moyenne, on va dire.
Ouais. Alors, écoutez, je vais vous présenter Lorca Lamy, vous la connaissez? Eh bien, c'est ce qu'elle pourrait vérifier et régler d'ailleurs, car dans Bonne Conduite, la nouvelle comédie de Jonathan Barré, elle joue le rôle de Pauline, formatrice dans un centre de récupération de points. Sauf que Pauline, sa méthode de prévention routière, eh bien, c'est de devenir une serial killeuse la nuit et de buter tous ceux qui conduisent mal.
Une sorte d'accord. De Dexter
du volant.
Du volant, voilà.
Voilà, ouais, c'est en fait c'est ça, c'est complètement barré, un petit peu comme le réalisateur. C'est grotesque et efficace, et je vous propose la bande-annonce.
Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue.
Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture?
Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas.
Vous avez toujours été formatrice?
À la base, je suis psychologue.
Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure ça.
Ouais.
Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon... C'est pas tous les jours facile.
Police judiciaire.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat.
Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Ah.
Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards.
Bah oui, je fais de la prévention routière.
Notre enquête prend une tournure, là.
Je savais bien quand vous étiez moustillé comme ça, là.
Là, on avance.
Allez. Allez, putain, c'est lent, cette merde.
Bonne Conduite avec Grégoire Ludig et David Marsay du Palmachot, Thomas VDB, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur Bac FM d'ailleurs. Lorca Lamy, et c'est en salle depuis aujourd'hui et donc dans votre ciné Mazarin. Et puis on parlait d'un film semaine dernière car il était en avant-première au ciné Mazarin et on en reparle aujourd'hui car c'est une des sorties de cette semaine et c'est la recommandation de Manuel Housset. Manuel qui est à mes yeux à un certain festival où le cinéma européen est à l'honneur jusqu'à samedi.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Oui, en effet, je suis en direct du Festival du cinéma européen de Mézieux, à côté de Lyon, 23e édition pour une belle édition 2023, ça tombe bien. 18 films qui sont projetés, dont 10 en compétition, il y a 8 courts-métrages, il y a plein d'événements, il y a des ateliers créatifs, il y a des rencontres avec les réalisateurs, les comédiens, dont Stéphane Fraisse, qui est le parrain et qui a ouvert donc ce festival, c'était vendredi dernier. Il y a aussi des spectacles de rue. Vraiment, le Festival du cinéma européen donc propose un très très beau programme jusqu'à samedi soir. À noter notamment la présence de la réalisatrice Ève Duchemin qui vient présenter son long métrage intitulé « Temps mort ». L'histoire de 3 détenus qui se voient accorder une permission d'un week-end. Ils ont 48 heures pour atterrir, 48 heures pour essayer de renouer un peu avec leurs proches et puis 48 heures pour tenter de rattraper le temps perdu. Donc c'est demain jeudi, donc à partir de 20h, Ève Duchemin sera là pour rencontrer les spectateurs et puis à mes yeux c'est toujours convivial, donc il y aura le verre de l'amitié qui suivra. Et puis aussi à noter le cours de la vie, ça c'est un film sous forme de comédie avec Agnès Inès Jaoui. Il y a aussi Stéphane Hénon, il y a Jonathan Zakaï, voilà, pour un film qui raconte l'histoire de Noémie qui va retrouver un amour de jeunesse. Tout ça se déroule dans une école de cinéma. Cet amoureux est devenu directeur de l'école et puis elle va donner une masterclass et là il va se passer quelque chose. Elle va transmettre l'art de la vie passionnément au travers de l'art du 7e art. Donc c'est un beau long métrage qui va refermer ce festival de mes yeux et ce sera samedi soir. Sinon, l'actualité du cinéma, vous le savez, chaque mercredi, eh bien on découvre les films sous les feux des projecteurs. Je vous propose aujourd'hui de braquer le projecteur sur « Je verrai toujours vos visages », l'histoire de Judith, Fanny et Michel qui pratiquent, on peut le dire vraiment, ce qu'on appelle la justice restaurative, c'est-à-dire que professionnels ou bénévoles, ils vont essayer de rentrer en contact avec les victimes, les auteurs d'infractions et leur permettre d'échanger. L'objectif, c'est vraiment d'aider les premières à se réparer, peut-être aussi de faire prendre aux seconds l'impact de leurs actes, tout ça dans le but de réduire vraiment les risques de récidive. Et tandis que Fanny et Michel vont se rendre en prison pour faire dialoguer les détenus condamnés pour des vols avec violence, avec des victimes aussi de homejacking, ce qu'on appelle les braquages, les vols à l'arraché, eh bien Judith va aider Chloé à gérer le retour dans la même ville qu'elle de celui qui l'a violée il y a des années. Vous voyez un peu pour planter un peu le décor. Donc la dimension très lourde et le poids qui pèse sur les épaules justement des victimes. Alors réalisé par Jeanne Herry, qui avait mis, vous en souvenez sûrement, en scène le bouleversant Pupille, c'était en 2018. Je verrai toujours vos visages, voilà un long métrage qui est plein d'humanité, plein de compassion, d'émotion aussi. Alors les traumatismes sont là, il y a aussi la colère, il y a les attentes énormes hein, des différents personnages, des différents protagonistes, et puis il y a vraiment le travail délicat, collectif, remarquablement écrit. Les acteurs sont époustouflants pour ces victimes qui sont vraiment sur le chemin de la résilience, et puis il y a aussi les auteurs d'infractions qui eux vont tenter de se racheter. C'est la rédemption qui va peut-être s'offrir à eux. C'est passionnant, c'est très juste, parfois extrêmement rugueux, mais il y a de la lumière au bout du tunnel et c'est vraiment un film porté par des acteurs magnifiques. Je pense à Élodie Boucher notamment, je pense aussi à Adèle Exarchopoulos, mais il y a aussi Leïla Bekti, voilà, sans oublier Gilles Lelouch et beaucoup d'autres. Donc voilà, le coup de cœur du cinéma à ne pas rater, le coup de cœur de ce mercredi. Je vous souhaite une belle journée et en attendant, allez au cinéma, le vrai, sur grand écran.
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner.
Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume ! Nous sors pas tes excuses débiles, là !
Tu le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers !
Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Je comprends pas cette violence.
On est là pour favoriser leur réparation.
J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine, puisque j'adorais mon frère. c'était mon grand frère.
Je verrai toujours vos visages, c'est la recommandation de Manuel Housset, en direct de mes yeux donc, aujourd'hui. Les filles, quel est votre petit coup de cœur de cette semaine ?
Moi, c'est Bonne Conduite.
Ouais.
Ouais, j'aime bien ce côté thriller, comédie noire. Ça me fait un peu penser, alors évidemment avec une autre histoire, mais à Barbac. Fabrice Eboué, ça me fait aussi un peu penser à Qui a tué Pamela Rose.
Ouais. Un petit peu dans l'univers un petit peu grotesque et un petit peu surréaliste.
Ouais, c'est ça, ouais.
Complètement surréaliste même, ouais.
Moi, je suis un petit peu Laetitia à ce niveau-là, oui. Je pense que Bonne Conduite, c'est celui qui m'attire le plus. Mm. Oui, en fait, ça a l'air vraiment, bah, comme tu dis, d'être une bonne partie d'humour noir, un peu thriller. Franchement, ça peut être sympa.
Puis un casting que je trouve très sympa en plus.
Oui, ouais. C'est vrai.
Et Laure Calamy qui s'adapte à tous les jeux, qui est vraiment impressionnante. Et avec un univers aussi un petit peu, je te rejoins un petit peu dans ce que tu dis, Letty, aussi un petit peu Quentin Dupieux aussi.
Oui, aussi.
Très
ouais.
Inspiré,
ouais.
Jonathan Barry qui s'inspire beaucoup des films de Quentin Dupieux dans le grotesque, le on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. J'ai revu là, il n'y a pas très longtemps, Tellement Vrai. De Quentin Dupieux avec Magimel etc. Et enfin voilà, tu comprends pas ce qui se passe quoi. Et il y a un petit peu de ça, je trouve, dans ce film là, dans cet univers là, du moins de Jonathan Barré. C'est dispo Cinéma Zarin, donc si vous allez le voir, eh bien vous m'en reparlerez. Voilà pour les nouveaux films qui vous sont proposés donc au Cinéma Zarin cette semaine, avec une avant-première aussi, c'est Les Trois Mousquetaires. On fera un focus dessus mercredi prochain, parce que je crois, Marie, toi, que tu es impatiente de
cette
sortie.
Oui, j'ai très hâte de le voir.
Alors, j'avais cru comprendre, mais du coup, peut-être que je me trompe, qu'il sortait en trois films.
Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est en deux films. C'est d'abord D'accord. Les Trois Mousquetaires avec D'Artagnan.
Okay.
Du coup, bah, le personnage principal que tout le monde connaît. Et je crois qu'ensuite, il y a le film sur Milady, qui est un peu... ouais, c'est l'antagoniste, j'allais dire principal, mais c'est plus secondaire, parce que ceux qui ont lu le livre savent que l'antagoniste principal, c'est le cardinal de Richelieu. Donc, je pense que ça peut être très sympa.
Bah oui, voilà, j'avais vu qu'il y avait plusieurs
ouais,
séries, enfin plusieurs films qui allaient sortir.
C'est en deux sorties, je crois, il me semble.
Donc voilà, affaire à suivre, mais on fera un focus mercredi prochain dessus et tu nous apporteras toutes tes connaissances sur Les Trois Mousquetaires.
Pas de soucis.
Justement, tu reviens tout juste de ton grenier et tu nous présentes un film d'animation aujourd'hui, Marie.
Tout à fait, donc aujourd'hui on va s'éloigner un peu d'Hollywood et du cinéma européen et on retourne au Japon pour parler d'une production Ghibli. On va plonger dans un conte de fées où siège la magie et l'aventure, puisqu'on parle du Voyage de Chihiro, c'est juste après la bande-annonce.
Quoi ?
Qu'est-ce que c'est ?
Allons voir ça de plus près.
J'aime mieux partir tout de suite, papa.
Personne ne doit venir ici. Va-t'en tout de suite. Va-t'en vite avant que la nuit tombe.
Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Elle vient de se lancer à ta recherche. Il n'y a pas de temps à perdre, courons! Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi.
Chihiro ? Est-ce que c'est moi ? Oh ! Est-ce que c'est mon vrai nom ?
Le voyage de Chihiro. Alors, j'avais déjà parlé d'un Ghibli dans l'action. Je sais pas si tu te souviens, Théo.
Si.
Donc, c'était un petit moment, j'avais abordé le château ambulant. Ouais. Mais pour le coup, alors, je peux vous assurer que cela ne fera pas redite avec le film d'aujourd'hui. Donc, sorti en 2001 et réalisé par Hayao Miyazaki, l'histoire s'ouvre sur une petite fille du nom de Chihiro et sur ses parents. La famille est en plein déménagement et on les retrouve sur la route, direction leur nouvelle maison. Mais suite à une erreur de route, les trois personnages se retrouvent devant un tunnel assez étrange.
D'accord.
Alors que Chihiro est très mal à l'aise devant, ses parents, un petit peu plus aventureux, veulent le traverser et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et une fois arrivés, ils découvrent une sorte de parc à thème vide, un peu abandonné. Et en s'enfonçant un petit peu plus avant dans le parc, ils finissent par trouver un stand qui déborde de nourriture, où les parents décident de s'installer pour une pause repas. S'éloignant d'eux, Chihiro finit par rencontrer un jeune garçon, mais ce dernier la presse de partir, lui disant qu'il faut absolument qu'elle fuit avant la tombée de la nuit. En courant pour retrouver ses parents, elle se retrouve devant le stand où elle les a laissés pour découvrir qu'ils se sont transformés en cochons.
D'accord.
Paniqué, elle aperçoit des ombres et des créatures étranges arrivées des quatre coins du parc. Le jeune garçon de plus tôt réapparaît alors pour la rassurer, lui dire qu'elle est désormais dans le monde des esprits. Se présentant comme Aku, il la guide vers le plus grand bâtiment du parc en lui disant que si elle parvient à y trouver du travail, la sorcière, qui est la maîtresse des lieux, ne pourra pas lui faire de mal. Donc c'est un mélange assez dépaysant de Alice au Pays des Merveilles, il y a un petit côté la jeune fille qui plonge dans un monde inconnu, merveilleux, qui a sa propre logique.
Okay.
Et les légendes japonaises traditionnelles. Donc le voyage de Chihiro, il prend ses racines dans un livre, comme beaucoup d'œuvres de Miyazaki d'ailleurs. Le roman La Cité des Brumes Oubliées, donc de Sachiko Kashiwaba, sert donc de base au film, sans que ce dernier en soit une véritable adaptation. Bon, on y retrouve une petite fille envoyée dans un village mystérieux où la magie règne et qui est surveillée par une vieille femme acariâtre qui lui impose de travailler.
D'accord.
Mais les similitudes s'arrêtent ici. L'imaginaire, les personnages, l'histoire qui est racontée, tout ça c'est très différent dans les deux œuvres. Il n'y a pas ce côté tradition, conte japonais qu'on peut retrouver dans Voyage de Chihiro.
Ouais.
Donc, beaucoup d'autres choses vont venir nourrir l'imaginaire de Miyazaki dans la conception du film. Déjà, celles qui l'auront le plus inspiré pour son film, ce sont cinq fillettes qu'il côtoyait pendant ses vacances dans un chalet de montagne. Avec, en gros, il y avait toute la famille qui se réunissait pendant les vacances.
Il y avait ces cinq fillettes et il a voulu créer une histoire autour de ça.
Et en fait, en voulant proposer un film qui parle aux adolescents et aux préadolescents, chose qu'il n'avait pas forcément fait jusque-là, il avait fait des films qui s'adressent aux adultes, des films qui s'adressent aux enfants, mais pas vraiment de films qui s'adressent un peu à la partie des, voilà, la partie préadolescente de l'enfance où tu te construis un petit peu plus.
Ouais.
Et il s'inspirera donc de chacune de ces cinq fillettes pour donner naissance à son héroïne principale, Chihiro.
D'accord.
Donc, parce qu'en fait, il voulait simplement en faire une figure très facilement identifiable en tant qu'enfant ordinaire.
Okay.
Donc le dernier point d'orgue qui marquera son univers, c'est le bâtiment phénoménal où se déroule l'intrigue, nommé le Palais des Bains. Et donc cet édifice s'inspire des onsen japonais. Tu sais ce que c'est qu'un onsen ou pas du tout?
Pas du tout. Alors j'ai une non-connaissance dans l'univers japonais qui est... Genre vraiment, moi ça s'arrête à manger un sushi quoi. Vraiment,
D'accord.
Non mais c'est affreux, hein. Vraiment là-dessus je suis naze. Hein.
Et toi tu sais ce que c'est ou pas du tout?
Pas du tout.
En gros, les onsen japonais sont des établissements thermale typique du pays, où les clients en fait viennent profiter de sources chaudes, souvent volcaniques, parfois naturelles.
Ah
parfois,
ouais, j'ai déjà vu ça dans des dessins animés.
Ouais, voilà.
Ça y kiffe les Chinois, ça. Hein.
Japonais.
Ouais, mais ils aiment bien ça. Hein. Moi, je les ai déjà vus là-dedans.
Ici, on en fait un établissement immense de plusieurs dizaines d'étages où les esprits, pour le coup, c'est tout ce qui est. L'esprit. Des traditions orales, des contes japonais viennent se détendre et les onsen sont pour le réalisateur du coup un endroit qui est très mystérieux, à la fois qui est toujours rempli de monde mais où plane un sentiment un peu d'intimité, de mystère très très fort, et donc c'est pour lui le cadre idéal pour une histoire avec des accents magiques. Donc pour revenir à une partie un petit peu plus technique, le voyage de Chihiro est un film d'animation en 2D dessiné à la main, donc comme tous les films d'animation de Ghibli. À la différence près que, une fois le dessin à la main fini, ils vont venir le retoucher numériquement et apporter des éléments en 3D. Donc une technique qui est déjà bien connue à l'époque, parce que c'est le début des années 2000, il y a Toy Story qui est pas très loin, la 3D ça commence à se démocratiser. Et donc c'est une technique qui est un peu, qui est déjà un peu utilisée, mais qui ici n'a pas pour but de focaliser l'attention sur les éléments en 3 dimensions. Au contraire, l'équipe ne veut pas qu'on se rende compte que certaines parties de l'animation sont différentes et ça marche plutôt bien, on ne s'en rend pas spécialement compte. Miyazaki lui-même dira qu'il utilise ce procédé afin d'améliorer l'animation, mais qu'il ne veut pas perdre l'aspect artisanal qui est très cher à son cœur. Il aime que ça soit quelque chose un peu... Ouais. Traditionnel. Je pense que le mot qui définit le mieux le voyage de Chihiro, c'est vraiment genre une plongée dans la tradition japonaise.
Mais par contre, c'est vrai que c'est méga beau.
Ah oui, c'est
magnifique.
J'ai
vu la bande-annonce et moi, je suis pas trop dans cet univers-là. Je pense que un jour, je m'y intéresserai un petit peu plus. Mais pour l'instant, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à franchir le cap de tout ce qui est manga, tout ça. Je suis vraiment à des années-lumière de tout ça. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est des super belles images et c'est très bien fait.
Bah écoute, peut-être que tu te laisseras tenter, tout comme le public qui a vu le film à sa sortie, puisque clairement, Le Voyage de Chihiro, c'est un énorme succès, donc au Japon, hein, bien sûr, mais pas que, puisque, alors déjà, il va rapporter plus de 395 millions au box-office mondial.
Ah ouais?
Et il est notamment...
C'est de la thune, ça?
Ah oui, beaucoup, ça fait beaucoup de thune.
Tu l'as converti en monnaie de là-bas ou pas?
En yens?
Ouais, en yens.
Alors, je l'ai pas converti, mais en fait, les yens...
Ça fait beaucoup de yens.
Ça fait énormément
plus
de yens.
Plus que dans Le Roi Lion.
Ah oui. Non, surtout que les yens, en fait, c'est pas très faible, mais genre, je crois, 1 euro, c'est peut-être quelque chose comme 700 yens. Je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme
d'accord.
Ça. Donc, ouais, ça fait beaucoup de yens.
Beaucoup de yens, ok.
Et donc, le film est notamment très, très populaire en France et aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il gagnera l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Et alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça en fait le premier film d'animation japonaise à remporter ce prix.
D'accord, ok.
Donc bref, c'est un très très beau film qui est plein de magie, de couleurs, et qui ravira les jeunes et continuera à émerveiller les moins jeunes, hein, avec de belles leçons, une ambiance toute particulière propre à son réalisateur, puis des belles images, hein, tout simplement, une belle histoire, et ça fait toujours du bien. Et si ça vous intéresse, donc ça, c'est un petit message pour toi, Théo. La totalité des œuvres de Miyazaki, dont Le Voyage de Chihiro, sont
Netflix,
disponibles sur Netflix.
Ouais,
c'est ça.
Je l'ai vu, ouais, ils en ont fait une grosse pub.
Ça fait un moment déjà qu'ils les ont tous, mais là, ils les ont vraiment tous. Franchement,
je crois, Letty, toi, t'es un peu d'accord avec ça. T'es un peu d'accord. Tu me rejoins un peu sur le fait que. T'es un petit peu à des années-lumière de cet univers-là.
Ouais, moi, dans cet univers-là, le seul que j'ai vu et qui est plus terre-à-terre, c'est le Tombeau des Lucioles.
Ah oui, bah, pour le coup, il est beaucoup plus triste aussi.
Oui, qui est très triste, mais qui est magnifique.
Ah, il est sublime. Il est sublime.
Ouais, bah, je ne sais même pas. Ouais, vraiment, là-dessus, je suis... Après, c'est intéressant de voir comment tu en parles, Marie, et aussi, ça me donne envie de m'y intéresser, mais je sais pas. En fait, si j'avais le choix avec plusieurs films, j'irais jamais trop vers ce film-là.
Après, en soi, tu vois, genre, c'est qu'un film qui dure 1h30, 1h40.
Ouais.
En vrai, pour une soirée, tu veux essayer, franchement, essaye. Personnellement, genre, bon, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans l'univers manga, beaucoup moins moi, aujourd'hui. Mais par contre, les œuvres de Ghibli, d'autres œuvres un petit peu plus similaires me parlent toujours autant parce qu'en fait, elles sont vraiment. En fait, même si c'est ancré dans la tradition japonaise, pardon, elles sont, comment dire, ouvertes, elles sont accessibles à toutes et à tous. Je veux dire, comme je te disais tout à l'heure, il y a des œuvres plus destinées aux enfants, donc on pense notamment à Mon voisin Totoro, par exemple.
Ouais.
Et après, il y a des trucs un peu plus adultes, comme si jamais toi, peut-être qu'un truc qui pourrait te plaire, toi, c'est Princesse Mononoke, qui est très
d'accord.
Très. Ça pourrait possiblement te plaire, tu vois. C'est quelque chose qui est un peu plus. Ouais, un peu plus adulte, un peu plus profond, ça peut potentiellement... Essaye,
je vais, écoute, je vais essayer de prendre... C'est une résolution, pardon, que je
prends.
Je la prends au mois de mars, avril, mais je la
prends. C'est pas grave.
Mais je la prends et je vais m'intéresser au studio Ghibli.
Vas-y.
Voilà, je ne vais pas y manquer.
Franchement,
merci.
Tu ne rateras rien.
Je vais le faire. Merci Marie, merci Laetitia.
Merci Théo.
Merci. On se retrouve, nous, à 13h. Juste avant, il y aura le Café Charbon qui viendra parler du concert de ce week-end. Puis nous, on se retrouve à 13h donc pour les infos. Et mon invité du jour, on parlera de Villageois tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.